Finalement, on a produit une semaine sur ce que c'est que de réduire les risques et sur la manière dont cette politique pragmatique s'applique plus péniblement en France qu'ailleurs. Résumé hier Romain, après 4 émissions, il n'avait pas complètement tort. Que l'on entende lundi les personnes directement engagées dans l'ouverture des salles d'injection, ou Vincent Bernière qui en tant qu'ancien toxicomane ne les a pas connues. Que l'on entende mardi des documentaristes aller à la rencontre d'usagers comme de procureurs ou d'intervenants sociaux. Que l'on s'interroge mercredi sur la légalisation du cannabis pour usage thérapeutique et récréatif. Ou que l'on évoque hier le très ancien mélange musique, drogue et jeunesse. Il s'agissait de prendre le réel comme il est et de minimiser les dangers en tentant de mettre de côté la morale. Eh bien, ce n'est pas gagné. Il est 14h passé de 1 minute. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Souvenir de service militaire, on ne pensait pas terminer comme ça la série d'histoires sur les drogues que nous raconte cette semaine le réalisateur Jean-Charles Hu. Dans le camp où il se trouve à l'époque, le colonel est clair, c'est marche ou crève, ici il n'y aura pas de réformé. Il entame une résistance interne et trouve une petite chambre où se cacher, à la fenêtre de laquelle il fume du hashish tous les jours.
Évidemment, la grève de la faim plus le shit, au bout de 15 jours, j'ai commencé à, certainement, sans que je me rende compte, parce que j'ai plus aucune notion du temps, à flotter.
À flotter. Et l'affaire se termine en réanimation, éléphant rose et montagne apaisée, dernier voyage illégal vers 14h50. C'est le dernier moment aussi de ce chantier thématique consacré à la drogue. Comme chaque vendredi, nous confions à quelqu'un le soin de décliner notre thème à la force de 5 extraits de films ou de séries, et selon sa sensibilité. C'est à vous, Iris Bray, qu'on a confié ce choix. Dans votre ouvrage Sex and the Series, publié chez Soap Edition, vous interrogez plutôt le pouvoir de médiation de ces séries télévisées, notamment à mettre en scène la sexualité féminine, et vous soulignez à l'époque l'audace de certains scénaristes, notamment américains, en la matière. Alors vous verrez qu'on a beaucoup parlé de morale cette semaine en parlant de drogue, vous ne serez pas très très loin de votre domaine de prédilection. En tout cas, bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Évidemment, quand on pense série et drogue, même film et drogue, il y a beaucoup d'exemples qui nous viennent en tête, y compris pour les personnes qui ne regardent pas de série forcément. Est-ce que les exemples furent nombreux à vous venir en tête quand on vous a fait cette proposition ?
Alors, le premier exemple qui m'est venu en tête, je me suis demandé, moi, en tant que personne qui aime regarder des films et des séries, qu'est-ce qui m'avait marqué? Et c'est vrai que je me souviens d'être allée au cinéma quand j'avais 16 ans et d'avoir vu Requiem for a Dream et d'avoir pris une énorme claque. Donc, j'ai décidé de mettre cet extrait-là. Après, pour les séries, c'est vraiment un thème qui devient presque banal. Enfin, là, cette saison, voilà, on a Narcos, par exemple, sur Netflix, une saison 2, sur Pablo Escobar. On a eu Breaking Bad, dont on a parlé pendant des années, qui ont obsédé les sériophiles et les critiques. Donc, je pense que oui, enfin, en tout cas, la série s'est vraiment emparée des drogues comme sujet de prédilection.
Breaking Bad et Narcos qui ne sont pas dans votre sélection, pourquoi?
Oui. Parce que j'ai voulu peut-être un peu mettre ces séries en perspective en parlant d'autres séries avant. Pour moi, avant Breaking Bad, il y a Weeds.
On entendra.
Donc c'est une femme au foyer qui vend du cannabis. Donc je voulais dire que Walter White n'était pas le premier papa à avoir eu une belle famille et à finalement aller vers autre chose. Et puis Narcos, j'ai trouvé que The Wire, quelque part, c'était peut-être une autre manière d'aborder la drogue où vraiment, en fait, on voit les deux côtés. C'est-à-dire qu'on voit la police et puis on voit ce qui deal. Et voilà, The Wire, c'est une série que je trouve absolument excellente. La saison 1 de Narcos était très bien aussi. La saison 2 prenait plus son temps. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait des ponts à faire en fait entre toutes ces séries et que peut-être d'évoquer des séries un peu plus anciennes pouvait donner envie d'aller découvrir autre chose.
Pourquoi, selon vous, c'est un motif qui a été plébiscité et qui est encore plébiscité par les scénaristes comme étant un motif parfait pour déclencher de la fiction et de la fiction en série, justement?
Je pense que le sexe et les drogues restent quand même des thèmes en fait qui attirent les personnes qui regardent les séries et ça se décline puisqu'en fait finalement ça fait partie soit de notre réalité ou en tout cas d'un entourage proche, je pense surtout pour les nouvelles générations. En tout cas, on a toujours parlé de drogue et c'est des choses, soit on se les approprie, soit on les regarde avec une certaine fascination, comme le sexe. Et je pense que les séries permettent de vivre en fait les drogues et le sexe un peu par procuration et d'atteindre ces émotions fortes à travers la fiction et en ne consommant pas de drogue ou en ne couchant pas avec des gens.
Anybody want to waste some time?
angel says that this is the time we should do it now.
Shit, I'ma call Brody tomorrow.
Who's Brody?
That's my sweet connection.
He's got some unbelievable shit.
Shh, righteous.
Look, Marion, we get this idea.
What is it?
On en achète une bonbonne, on la coupe, on se fait le double de thunes sans problème.
Putain, ouais, après, on se prend une litre de pur et c'est la retraite. Tu vois ce que je veux dire? On arrête de zoner.
Fini les sales plans, on se la coule douce.
C'est quoi le risque?
Premier shoot de cinéma, vous disiez, Iris Bray, que lorsque vous entendez cette proposition thématique à décliner en 5 extraits, vous pensez assez directement à Requiem for a Dream. Vous le découvrez à sa sortie?
Oui. En fait, je le découvre dans la salle de cinéma. C'est un des premiers films que je suis allée voir seule aussi. La drogue, c'était un univers qui m'était à l'époque totalement pas du tout familier, enfin qui me faisait même un peu peur. Et en même temps, je trouvais que le film avait été très fort puisque on avait cette impression même d'être drogué. On avait presque les symptômes, en fait, quand on prend une drogue. Le film influençait mes émotions. J'avais même une perte de contrôle de mes mouvements par certaines visions, en fait, qui me faisaient me tendre. Et puis, voilà, il y avait toute cette, finalement, dialectique autour de l'illusion du bien-être que peut procurer une drogue, mais aussi du mal-être que peut procurer une drogue. Et je trouvais que, finalement, aller au cinéma, c'était un peu ça, c'était se laisser bercer par une illusion et aller vers un mouvement, accompagner, finalement, un créateur et rentrer dans sa perception du monde et accepter, en fait, que le monde se transforme sous nos yeux. Et je trouvais que c'était... sans avoir pris du tout de drogue, je trouvais que c'était un moment extrêmement fort. Et j'ai aussi choisi cet extrait parce que on parle toujours d'addiction aux séries. Et je suis pas vraiment d'accord avec cette idée-là parce que je trouve que on n'a pas une addiction aux séries ou au cinéma. C'est des objets d'art qu'on aime regarder, qu'on aime analyser. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que en les regardant, en étant absorbé par ces objets de fiction, on peut avoir la sensation d'être drogué. Mais on a la sensation d'être drogué, mais on ne devient pas addict. Et je pense qu'il faut rappeler que c'est une pathologie, l'addiction, et que les séries ne rendent pas forcément accro. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réconfortant, quelque chose pour lequel on prend un rendez-vous. On n'est pas comme dans la consommation de drogues dures qui provoquent des vraies addictions et pathologies. Enfin, donc, je voulais reprendre cette idée qu'on n'arrête pas de rabâcher... qu'on est tous addicts aux séries et que le binge-watching et Netflix transforment la manière dont on consomme les séries. Je voulais te dire que c'est ce qui m'intéresse, c'est le shoot en fait, c'est pas l'addiction.
Pour en revenir à ce film-là, que vous qualifiez donc comme un premier shoot, c'est un film qui sort dans les années pile au début des années 2000, puisqu'il sort en 2000, donc vous êtes jeune. Pas très 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 vieille. Ça veut dire que pour vous, c'est aussi une expérience d'une première parabole de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire cette ouverture sur des sensations, sur un univers sensoriel, un univers visuel.
Oui, enfin moi, je l'ai vécu un peu comme une première fois. Il y avait quelque chose de... En fait, je pense que j'avais jamais pu percevoir que le cinéma pouvait être aussi une expérience violente. Et que dans l'intimité, il pouvait aussi y avoir la violence et que la sensation de plaisir qu'on peut recevoir en se droguant ou en regardant un film, ça pouvait aussi être accompagné par une ultra-violence et par quelque chose qu'on ne sait pas forcément maîtriser. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses en fait, qui se tissaient. À 16 ans, on est adolescent, on est en train de se construire aussi, on est en train de découvrir le rapport qu'on peut avoir aussi à son corps. Et je trouve que dans cette expérience physique qui peut être sexuelle, elle y est aussi dans la consommation de drogue. C'est-à-dire que je trouvais que le film de Darren Aronofsky faisait vraiment ça. On voyait les pupilles se dilater, etc. Enfin, on voyait finalement la transformation physique du corps. Et voilà, c'était des thèmes qui me commençaient à me passionner à ce moment-là.
Alors juste peut-être pour boucler la boucle, rappeler de quoi il s'agit dans Requiem for a Dream. On parle de pupilles dilatées, mais ce sont les pupilles de qui?
Dans Requiem for a Dream, en fait, on a plusieurs personnages qui... Enfin là, donc, les pupilles dilatées, c'est un shoot d'héroïne. Et on voit plusieurs personnages, en fait, tomber dans la drogue. Et bon, la fin de ce film, finalement, il y a des conséquences, en fait. Chacun va soit tomber dans la prostitution pour pouvoir s'acheter de la drogue, ou avoir un bras coupé à force de s'être trop piqué. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être aussi, pour en revenir à la morale, qu'il y a peut-être, cette chose un peu moralisatrice à la fin de dire que bon, bah, il y a toujours des conséquences. Mais j'ai trouvé que l'expérience sensorielle était tellement forte que finalement, c'était pas ça que je retenais du film.
Yo, shit is late.
Yeah, they still violent up. Usually come off the chain street ready, but this time they got a vial.
And y'all got any tussles, man?
Yeah, later.
Later? Y'all got any tussles, man?
Nigga, it ain't even 9 o'clock and you fainting on it. Get the fuck out of here, man.
Damn.
Yo, why you act like that, yo?
What for these junkie motherfuckers?
So you just gonna take his money all day and treat him like a dog?
How I'm supposed to treat him?
I don't know. But you ain't gotta punk him like that.
Punk yourself. You goddamn drug addict.
And you a goddamn drug dealer.
So? So what? Qu'est-ce qu'il y a? Le client a toujours raison, c'est ça?
Eh, hey, ici c'est la cité, mec. Le client se fait baiser, c'est la loi. Y a pas de cadeau à leur faire à ces négros.
Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tous les autres trucs se vendent partout dans le monde sans que les gens s'arnaquent ou se tirent dans les pattes, sans qu'ils se racontent de conneries, sans qu'ils se pourrissent la vie sans arrêt. Pourquoi avec la dope, ce serait différent?
Parce qu'ils sont accros, mon frère.
Ouais, mais le jeu, on n'est pas obligé de le jouer de cette façon. Tu vas quand même pas me dire qu'on peut pas faire notre business sans que tout le monde se massacre. Ça saigne de partout. On dirait que vous dressez des chiens. Et en plus, on n'aurait pas les keufs sur le dos toutes les 5 minutes à nous casser les couilles. Faites tourner ça dans vos cervelles.
Ah, tu délires, man.
Ah ouais, tu crois que ça les intéresse que des négros se défoncent? Dans leur tour de naze? Ce qui intéresse les keufs, les mecs, c'est les cadavres, c'est tout. C'est pour ça que tu les vois appliquer. Pour les cadavres.
Salut à vous, valeureux chevalier.
Oh, qu'est-ce que tu veux encore?
Oh non, c'est à lui, l'autre.
J'ai du top look, frère. Regardez du top look, rien que pour vous. Eh, le best, attendez, regardez ça. Classe, non?
C'est trop de
5 dollars seulement, c'est cadeau.
Je te jure, 5
dollars. Ouais, 5 dollars. Et tu deviens un sacré 5 dollars, patard, grande classe.
Celui-là, on le connaît.
When you walk through the garden, watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, save your soul. Gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and the fury at his command. You don't got to worry. Hold on to Jesus and we'll be safe from Satan when the thunder rolls. But you gotta keep the devil down in the hole.
Keep him down the gun, all right? That's all, yo.
Oh, yeah. We'll be safe from Satan.
Deuxième extrait de cette carte blanche autour de la drogue. Iris Bray, vous avez évoqué tout à l'heure très brièvement ce choix de série qui s'est aussi imposé à vous, The Wire. C'est une série qui commence en 2002, une série américaine dont on a entendu un extrait, aussi évidemment une histoire de deal de drogue, mais un portrait d'une ville, Baltimore. Pourquoi est-ce que c'est une série qui vous intéressait?
C'est une série absolument brillante parce que c'est presque un document sociologique. Donc le créateur et le showrunner de la série, David Simon, a vécu dans cette ville à Baltimore, a d'abord été journaliste, puis pendant un an a écrit un livre qui s'appelait The Corner sur un coin de rue, qu'est-ce qui se passait sur un coin de rue, le trafic de drogue. Et The Corner après a été adapté en série en 97, puis est venu The Wire. Donc c'est une série déjà qui est extrêmement documentée. Et ce qui m'intéressait, c'était que j'avais l'impression que pour la première fois, les dealers n'étaient pas que des dealers, c'était aussi les héros. C'est-à-dire qu'on était du point de vue de Jimmy McNulty, le flic qui essaye de démanteler tout un réseau, mais on passait autant de temps avec les dealers. Et du coup, je trouvais que c'était... C'était une série en fait qui voyait le trafic de drogue de manière globale et qui voyait aussi à quel point il y avait une violence systémique finalement dans ce trafic de drogue et que ça venait des deux côtés. Et je pense de finalement pas être dans voilà, c'est noir ou blanc, et surtout parce que voilà, c'est aussi une série où il y a beaucoup d'acteurs noirs et tous les acteurs noirs ne sont pas que ceux qui dealent de la drogue. Je trouvais que c'était vraiment, enfin voilà, c'était d'un point de vue journalistique, c'était extrêmement documenté, il y avait une qualité documentaire même dans la réalisation. Et puis il y avait un personnage que j'aimais beaucoup qui s'appelle Bubbles, qui était addict mais qui était aussi la personne qui leur donnait toutes leurs informations, la taupe, hein, finalement. Et je trouvais ça assez intelligent d'avoir aussi ce personnage-là qui faisait le pont entre les deux mondes et de pouvoir suivre ces deux mondes sans tomber justement dans le côté moralisateur de ce que c'est que de vivre de drogue.
Et d'ailleurs, en effet, quel que soit l'endroit du monde ou des deux mondes dans lequel on se situe, dans l'extrait que vous avez choisi d'entendre, il est question justement de leur couleur de peau, de la question raciale. Comment est-ce qu'elle est traitée? On entend l'un des consommateurs ou des dealers dire « Est-ce que tu crois que ça les intéresse que des négros se droguent ?» Comment est-ce qu'elle est traitée, cette question-là?
En fait, finalement, c'est un peu une mise en abîme de cette question-là, puisque rien qu'en faisant une série sur ça, c'est vrai que je pense que ça a permis de donner une visibilité déjà aux personnes qui vivent dans ce qu'on appelle the projects, hein, donc les espèces de HLM qui sont dans toutes les grandes villes américaines qui sont totalement délaissées. Et puis je pense que ça a permis en fait de quelque part d'amener une conversation autour de ça, même si on était dans la fiction. Il y a beaucoup, au moment de la sortie de The Wire, beaucoup d'Américains qui se sont dit « Enfin, on parle de nous. Ça, c'est notre réalité. » Et donc, il y avait un espèce d'effet miroir qui permettait de parler déjà d'un problème qui existe et qui n'existe pas que dans un monde fantasmé là, qui existe dans un vrai quotidien que beaucoup de personnes partage. Et je veux dire, David Simon, il n'hésitait pas à montrer la violence aussi qui allait avec ces trafics de drogue, mais il arrivait en même temps à rendre tout ce petit monde du côté des policiers ou des trafiquants extrêmement humain. Et je pense que ça a fait du bien à toutes les personnes qui regardaient cette série, et puis les personnes qui vivaient dans The Projects, de ne pas être réduits que à leur couleur de peau.
Et si bien qu'en matière d'identification, il était possible de s'identifier à un junkie au bout du rouleau, de la même façon qu'un dealer cynique, de la même façon qu'un flic.
Ouais, voilà. Et je trouvais que ça, c'était un tour de force. Et puis, il y avait aussi un personnage féminin qui, moi, m'intéressait beaucoup, qui s'appelle Kima, qui était le bras droit de McNulty, qui était lesbienne et qui revendiquait en plus sa sexualité, qui était noire et du coup, qui incarnait beaucoup de choses en même temps et qui donnait aussi un point de vue aussi de femme, enfin féminin, sur ce que c'était que ce monde-là, puisque c'est souvent on ne l'a pas dit, mais c'est un univers qui est souvent associé aux hommes.
Et à raison, hein, parce que pour le coup, nous, on l'a dit pendant les quatre émissions qui ont précédé, et sociologiquement, il y a une surreprésentation des hommes, notamment dans des pratiques d'injection. Donc j'imagine que dans la fiction, ça se retrouve aussi, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à la fois représentés dans le deal, dans la consommation et dans la police.
Mais c'est pour ça que dans mes extraits suivants, justement, on va avoir un peu plus de femmes. Et c'est vrai que le personnage de Kima était extrêmement masculinisé, mais aussi par sa profession. Enfin, elle faisait même pipi debout pour montrer à McNulty qu'elle aussi, elle savait faire pipi debout. Donc il y avait quand même tout un discours autour de finalement, est-ce qu'on a besoin de se masculiniser pour être respecté dans la police et puis pour aussi exister dans des univers hyper virilisés. Mais je trouvais que c'était voilà, une série qui en tout cas avait un certain courage dans ce que ça racontait.
Vous avez parlé de suivre la vie de deux mondes ou de plein de mondes, j'imagine, parce que c'est très éclaté. Ces tenues sur les six saisons.
Non, en fait, on change un peu de perspective sur les saisons après. En fait, on est sur d'autres trafics, pas forcément de drogue, mais en tout cas, ce qui revient à chaque fois dans la série The Wire, c'est de regarder finalement comment est-ce que les autorités et tout un système, même le système judiciaire, est mis en place et finalement garde certaines, enfin, et cristallise en fait les tensions et fait que c'est finalement le système en entier qui ne permettent pas aux choses de changer. Ce n'est pas que de la faute d'une personne ou que des dealers. C'est-à-dire que cette série, elle révélait quelque chose sur l'Amérique, en fait, de bien plus grand, sur le système judiciaire, sur la police, sur même dans la démographie. Enfin, c'était vraiment... on entrait dans... Par The Wire, on entrait dans, finalement, tout ce qui ne marche pas aux États-Unis. Et on peut le voir dans des documentaires plus récents, Making a Murder, ou des choses comme ça qui montrent finalement que le système judiciaire aux États-Unis est quand même a beaucoup de changements encore à faire. Et je pense que cette perspective documentaire alimentait en fait la fiction de manière à ce que, de manière pas frontale, mais de manière implicite, on arrivait quand même à voir qu'il y avait des gros problèmes, quoi.
Et à saisir, à partir presque de l'entrée de la drogue, toute une complexité sociologique. Tout à l'heure, vous avez bien précisé que David Simon était d'abord un journaliste, il était au Baltimore Sun, et qu'il avait éprouvé ce territoire-là, qu'il avait écrit, qu'il avait connu ce territoire-là très fort. Et puis vous parliez aussi de l'effet miroir d'une Amérique qui s'est enfin vue représentée. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un effet de découverte ? Est-ce qu'il y a eu aussi une Amérique qui s'est dit « Ah bon, ça existe ?»
Ah oui, je pense. Enfin, je pense que ce genre de série, quasi documentaire, je pense qu'elle permet, donc si diffusée sur HBO, elle permet aussi à toute une population. Donc HBO, c'est le câble, hein, donc il faut payer pour avoir accès à ces séries. Donc les personnes qui payent pour avoir le câble sont souvent des personnes déjà un peu plus aisées. Donc je pense que ça permettait à peut-être une partie de la population qui n'est jamais allée dans The Projects de comprendre un peu ce qui se passait autour de leur ville. Et que finalement, la périphérie arrivait à l'intérieur de leur maison.
Par le câble.
Ouais.
Look at you, you're young, having so much fun. Gonna be a star, blah, blah, blah. And click, there goes the phone. I don't wanna know what my horoscope's predicting. Just pour me a drink, 'cause I need a kick. I don't wanna think, I just wanna sip. David, don't you hear me at all? David, won't you give me a call? Waiting here, not making a sound. David, come around. Mr. Bush, he says, I'm your president. I have lots to say. Hey, 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 and click goes the remote. There you have my vote. Catching the next boat out of here. Just pour me a drink, 'cause I need a lie. I don't wanna think, I just wanna die. David, don't you hear me at all? David, don't you hear through the wall? Waiting here, not making a sound. David, come around.
France Culture,
les nouvelles vagues,
par Marie Richeux.
You are lighter than Michael Jackson, you so light. Where is my money?
Shane broke his arm last night.
Oh. Sorry to hear that. Where is my money?
I'll get it, I swear. I need more inventory. I'll pay everything back.
I'm sure you will. But until then, it's time to give it up. The shiny bits.
You have my car.
I can't sell no leased car.
Alors si tu veux plus, tu me donnes plus. Et tes sacs de contrefaçon et ta menthe pourrie, j'en veux pas. C'est les affaires, ma belle. Je sais que t'as des ennuis, mais comme ma mère disait, rien à cirer.
T'as une couverture?
Bien sûr. C'est un juif de Century City qui a monté le truc. Je sais très bien qu'il se sucre au passage, mais sur le papier, ça roule, ça fait la blague. T'as devant toi la présidente et PDG de Fédulogie et ça. Et j'ai même la camionnette.
Femme de ménage?
Technicienne de surface, je suis la bonne à personne.
Tu nettoies pas de maison. T'es une dealeuse avec une couverture.
Et eux, c'est mes employés.
Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un t'appelle pour nettoyer sa maison ?
Je l'envoie à ma cousine. Zandra a fait ça pour de vrai, elle. Elle gagne pas un rond, mais Zandra a trouvé le cerf, alors elle s'en fiche.
Un jour, on aura une baraque sur une plage aux Caraïbes.
Jusqu'à ce que la colère divine nous envoie un raz-de-marée et nous balaie de la carte comme ces pauvres mecs en Indonésie. Un, pas pour moi.
Tsunami, ça s'appelle un tsunami. Trop beau ce mot, je l'adore.
Tel que je te connais, tu pourrais appeler ton bébé Tsunami.
Je m'en tape de ce que tu dis, c'est un joli nom.
Mais si tu crois que je vais te laisser appeler mon héritier du nom d'une vagueuse, et la maison sur la plage, ça aussi t'oublies. Je supporte pas le sable. Le sable, le sang et la famille. On peut jamais s'en débarrasser. Tiens.
Allez, salut.
Maman.
Combien on peut en tirer?
T'oublies. Elle reviendra.
Vous aviez promis Iris Bray des personnages féminins, en voilà, qui arrive avec ce troisième choix pour cette carte blanche ciné autour du thème de la drogue. On est dans cette série Weeds, que vous avez préférée à Breaking Bad. Un petit résumé, peut-être nous dire à quel moment elle sort et qu'est-ce qu'on y raconte?
Alors, c'est une série qui sort en 2005, c'est une série de Jenji Cohen. Elle sort, en fait, à un moment assez intéressant parce que c'est l'histoire d'une femme, donc quarantenaire, qui perd son mari subitement. Donc c'est d'abord une série sur le deuil et sur devenir en fait mère célibataire, du jour au lendemain. Et du coup, ça parle aussi d'économie en fait. Comment est-ce qu'on fait quand on est seul avec deux garçons chez soi et qu'on n'avait pas prévu ça? Et voilà, au lieu de se tourner vers la prostitution, qui est souvent une ligne de fiction qu'on retrouve souvent pour les femmes un peu désespérées, là non, c'est beaucoup plus intéressant. Elle se dit qu'elle va dealer de la drogue, de la marijuana. Et donc au début, évidemment, donc ses enfants, elle le cache à ses enfants, mais son entourage adulte proche va assez vite découvrir sa nouvelle activité. Ce qui m'intéresse en fait dans cette série, qui finalement fait aussi un peu écho à Breaking Bad, c'est que c'est d'abord une série sur la famille. Comment est-ce qu'une famille, quand un des membres de la famille se met à vendre de la drogue et donc à basculer dans un autre univers, comment est-ce que la famille réagit à ça? Et aussi Weeds, j'avais l'impression que c'était l'illicite qui pénétrait l'Amérique dormante. Enfin, il y avait un côté très Desperate Housewife avec ce personnage de Nancy et qui, avec ses nouvelles fréquentations, puisqu'elle est obligée donc de fréquenter des personnes qui dealent beaucoup plus qu'elle. Au début, c'est elle, un peu comme Walter White. Elle commence avec des petites doses et puis finalement, comme elle a besoin de toujours plus d'argent, là, on l'entend qui dit que son fils s'est cassé le bras et donc elle n'a pas de couverture sociale, donc elle a besoin d'énormément de cash juste pour emmener son enfant à l'hôpital. C'est intéressant que ce soit la responsabilité en tant que mère, en tant qu'adulte, qui l'a fait basculer dans un univers où on peut avoir plus d'argent plus rapidement. Et c'est aussi un personnage féminin qui redécouvre sa sexualité en même temps qu'elle découvre la drogue. Parce que voilà, c'est un peu une novice dans les deux secteurs. Elle a une vie extrêmement rangée avec un mari qu'elle aimait, tout se passait très bien. Et puis là, il y a l'illicite du côté sexuel, mais aussi de la drogue qui vient interrompre son train-train. Et il y a un autre aspect de la série que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça se passe dans une ville fictive. C'est-à-dire que là, c'est le contraire pour moi de The Wire.
Bâtiment, ouais.
Voilà, puisque la ville s'appelle Agristik. On la voit dans le générique. Donc, au début de chaque épisode, on voit le nom de cette fausse ville qui est censée être en Californie. Et de vraiment, en fait, placer ça dans un univers qui n'existe pas, dans une ville fictive. Je me suis demandé, enfin, mais c'était une question aussi que je m'interrogeais dans mon livre, finalement, est-ce qu'on avait besoin d'avoir une ville fictive pour montrer une mère sexuelle et qui en plus vend de la drogue? Est-ce que finalement aux États-Unis ce serait trop si ça se passait à Beverly Hills? Est-ce qu'il fallait que la créatrice, la showrunneuse, invente ça pour permettre une certaine distanciation pour le spectateur afin qu'il aime la série? Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement en fait subversif à montrer. Une femme qui est déjà son propre patron, qui fait ça avec la drogue et qui en plus a une vraie sexualité. Hein. Dans un des premiers épisodes, elle se masturbe et son vibromasseur n'a plus de pile et elle décroche ce qu'on utilise pour l'alarme incendie, puisqu'il y a deux petites batteries dedans, afin de pouvoir en remettre dans son vibro. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, finalement, la sécurité, toute cette notion de sécurité qu'il faut avoir un cocon familial, protéger les siens, c'est détourné dans la série. On voit d'autres manières de faire.
Et d'ailleurs, au début, cette série n'est pas achetée en France. On a un petit peu de mal à la voir diffusée et les patrons de chaîne se justifient un peu mollement en disant non seulement nous ne l'avons pas achetée, mais nous n'allons pas l'acheter non plus. Elle finit par être visible sur Canal+. Est-ce que vous diriez que c'est précisément une subversion qui a du mal à être rapatriée en France? On a passé 4 jours à dire la spécificité du rapport français avec la drogue et les substances illicites. Vous diriez que ça vaut aussi pour des scénarios comme celui-là?
Oui, je pense que c'est assez fascinant, en fait. On veut rester aveugle. Il y a vraiment quelque chose... Il y a un point d'aveuglement très très fort, je pense, où on refuse de voir une certaine réalité. Et même quand c'est dans de la fiction, et même quand la fiction utilise la fiction pour faire passer son message, on se dit, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça mérite d'être montré? Alors que tous ces récits-là, je trouve, autour des drogues, permettent de toute façon une discussion, puisqu'on s'en empare comme des objets d'art. Donc ça permet de toute façon une réflexion, une pensée, une discussion qui ne peut faire qu'avancer les choses. Alors que de garder ces séries quelque part dans les placards ou qu'elles soient regardées de manière elle-même, comme en se cachant, ça ne fait qu'en renforcer le tabou qui peut y avoir autour de la consommation de drogue.
Et par conséquent, c'est pas un hasard si on ne trouve pas de séries françaises ou francophones dans votre... Enfin, françaises dans votre sélection ?
Alors, c'est vrai que moi, les séries françaises, je suis moins déjà spécialiste, j'en regarde moins. Et du coup, je pourrais pas vous dire s'il y a vraiment une série qui s'empare d'un personnage comme ça et qui suit sa trajectoire, mais je trouve qu'aux États-Unis... Parce que aussi l'industrie de la série aux États-Unis est beaucoup plus forte, écrite depuis plus longtemps. On en a beaucoup plus aux États-Unis, donc il y a des choses qui changent en France. Et je pense que les séries en France commencent à s'emparer de sujets sociétaux, puisque c'est vrai qu'en France, quand même, c'est dans la fiction. Dès qu'on s'empare d'un sujet sociétal, ça brusque les gens. On sait pas comment en parler, on sait pas comment s'en emparer. Et je pense que les États-Unis le font depuis beaucoup plus longtemps. Que ce soit The Wire, où vraiment là on est dans le côté documentaire, ou Weeds, où là on est vraiment dans la fiction, il y a une manière aux États-Unis de pas avoir peur de montrer que c'est une réalité.
Nicole, it's time to wake up.
Mom.
A bacterial infection in your heart, usually introduced from a dirty needle. They also found traces of cocaine in your blood, which is a fun new choice for you.
I had pneumonia. Must have spread or something. Seriously, I'm clean.
Tu l'es maintenant, c'est assez ironique. Tu as subi plusieurs transfusions sanguines au cours de l'opération. Tu as dû être contaminé par la pire des bactéries de la pneumonie.
Tu dois appeler Paolo pour vérifier qu'il survit bien sans sucer tes tétons.
Écoute, t'as 26 ans, Nicole. Alors tu crois pas que tu devrais quitter la phase « je déteste ma mère » ?
Attends un peu. Oh, t'es ma mère, sans blague. Tu vois, je croyais que c'était cette femme noire qui me faisait de bon muffin et me lisait des histoires avant de me coucher.
J'ai fait de mon mieux pour ton bien-être.
Me confier à une nounou pendant que t'habitais un autre appart avec ce fumier qui croyait les enfants pleins de microbes, c'était pour mon bien-être? Je crois que si t'examinais rien qu'une seconde la situation dans laquelle on se trouve, tu penserais le contraire.
Tu changes pas. Vas-y, blâme tout le monde à part toi-même, Nicole. Ça me semble t'avoir été profitable comme façon de faire.
À chaque fois, tu me manques jusqu'à ce que t'arrives.
Alors, on est passé dans la rue à Baltimore, dans des chambres, dans Requiem for Dream. On était dans une ville fictive de l'Amérique dormante, pour reprendre vos mots, Iris Bray. Et là, on est du côté de la prison, avec un dialogue mère-fille dans l'extrait que vous avez choisi. De quelle série s'agit-il ?
Orange is the New Black, qui est une série Netflix de la même showrunner que Weeds. Et donc, c'est une série qui au début, suit une femme qui s'appelle Piper, qui est une femme blonde, très jolie, qui a eu aucun problème, et puis qui est tombée amoureuse d'une femme qui a dealé et qui s'est retrouvée en prison. Et donc, on voit la série à travers ses yeux. Elle doit s'adapter, finalement, dans cette prison, à tout un univers d'autres personnages féminins qui ne sont pas comme elle. Mais j'ai décidé d'un extrait où on entend un autre personnage qui s'appelle Nikki. Donc, en fait, au fil des saisons dans Orange is the New Black, on a des petites backstories. Enfin, on arrive à... On apprend, en fait, pourquoi le personnage s'est retrouvé en prison. Donc, parfois, il faut attendre très longtemps pour qu'on comprendre qui est vraiment ce personnage-là. Et l'histoire de Nikki est développée un peu plus dans la saison 3, où on comprend qu'elle a un vrai rapport d'addiction à la cocaïne. Et je trouvais que c'était... j'avais envie, en fait, d'avoir un extrait qui soit à propos d'un personnage qui traverse ça. Parce que je pense que l'addiction à n'importe quelle drogue est encore quelque chose dont on parle jamais et qui pourtant fait partie du quotidien de beaucoup de personnes. Et je trouve que ce personnage dans Orange is the New Black montre très bien la manière dont on peut rebasculer, en fait, tellement rapidement dans une drogue. Et la série aussi met en scène au sein de la prison les meetings de AA et NA, donc Narcotics Anonymous and Alcoholics Anonymous, qui est quand même
donc les narcotiques anonymes et
les alcooliques anonymes. Voilà, qui est quelque chose qu'on représente très peu aussi dans la fiction française, mais qui fait vraiment partie aux États-Unis de la culture aussi, c'est-à-dire que on peut trouver un système pour nous soutenir. Alors ça existe aussi en France, hein, c'est à Paris, ces réunions, mais je veux dire, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas, qui est extrêmement tabou. Alors que moi, quand je vivais aux États-Unis, même quand j'y vais encore, c'est quelque chose dont on parle plus facilement, d'accepter en fait qu'on vit avec une addiction. Et je trouve que voilà, Orange is the New Black, c'est un peu aussi un pendant de The Wire, c'est-à-dire que elle utilise énormément de problèmes qu'on voit aux États-Unis, elle les remet dans la fiction, mais on se sent extrêmement proche de ces personnages. J'ai pas envie de spoiler, donc de raconter la fin de la dernière saison, mais elle utilise par exemple la phrase Black Lives Matter, qui quand même qu'on a énormément entendu, donc aux États-Unis, et de l'entendre en fait dans une fiction. Et en fait,
donc la traduction française, c'est la vie des personnes noires compte.
Voilà, elle reprend même dans une histoire. Voilà, il y a une des détenues noires qui va mourir par accident, et elle reprend en fait cette vidéo qu'on a beaucoup vue d'un homme noir étant asphyxié par un policier. Et donc c'est une showrunneuse qui n'hésite pas à reprendre même visuellement ce qu'on a pu voir aux infos ou sur les réseaux sociaux et à le réinjecter dans la fiction avec des personnages de fiction auxquels on est extrêmement déjà attaché. Et ça crée quelque chose, en fait, je pense, en tant que spectateur, de pouvoir s'approcher, voilà, de ce que c'est que le racisme aux États-Unis aujourd'hui, de ce que c'est que l'addiction pour une personne qui est addict ou pour l'entourage de cette personne-là. Je trouve ça d'autant plus fort, en fait, et ça peut être parfois un côté un peu éducation, enfin peut-être un peu trop éducatif. On voit parfois les grosses ficelles de ce qu'elle a envie que la série nous transmette, mais je trouve que ça nous permet, nous, d'aborder ces thèmes-là peut-être avec un peu plus d'humanité quand ça ne nous touche pas directement.
Orange is the New Black, c'est le titre qui évoque aussi l'orange des costumes, ouais, des uniformes portés par les personnes en prison aux États-Unis, ce qui permet aussi de rappeler que le décor de cette série, c'est la prison. Est-ce qu'elle tient un propos, ou est-ce qu'il vous semble qu'elle tient autant à avoir un propos sur la prison que sur la drogue ?
Je pense qu'au début de la série, oui, il y avait un peu quelque chose sur le fait qu'il y avait très peu d'argent pour la prison, qu'il y avait des conditions un peu déplorables, mais très rapidement, en fait, on dépasse totalement ça. Et la prison n'est qu'un prétexte pour avoir finalement tous ces personnages féminins ensemble, qui sont aussi confrontés aux gardes. Mais c'est une série extrêmement drôle, parce que c'est vrai que là, du coup, j'en fais un portrait assez noir, pour le coup, mais c'est une série extrêmement légère, mais qui arrive comme ça à vous piquer au cœur à des moments où on s'y attend le moins. Et je pense que pour moi, c'est ça, les grandes séries, c'est des séries qui réussissent en quelques secondes, en fait, à vous prendre au cœur et à créer des personnages qui, sous couvert d'être extrêmement drôles et attachants, racontent quelque chose de beaucoup plus profond sur l'Amérique.
Et avec un évitement de précisément trop de morale, ou une morale très claire qui situerait le bien d'un côté, le mal de l'autre, la bonne vie d'un côté, la mauvaise vie de l'autre?
Je pense que à partir du moment où on n'est que avec des femmes incarcérées et qui sont quand même toutes les héroïnes, on est quelque chose de beaucoup plus flou. On n'est pas du tout dans un côté le bon et le mal. Après, il y a dans certains épisodes, il y a vraiment un côté « je vais vous apprendre la vie ». Mais parfois, c'est utile. Enfin, par exemple, il y a quand même le personnage de Sophia, qui est une coiffeuse transgenre, par exemple, d'avoir un personnage transgenre dans une prison de femmes. Je trouve que ça peut faire évoluer les mentalités. Et on a ce personnage-là qui explique à toutes les autres femmes, par exemple, où se situe l'urètre. Bon, ça peut paraître bête comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la série qui apprennent, en fait, l'anatomie féminine à travers un discours qui peut paraître un peu drôle, parce qu'il y a deux, trois blagues autour de ça. Elle fait passer quand même des messages extrêmement forts et politiques. Pour moi, c'est une série avant tout politique, quelque part.
Putain, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Non mais une faciale? Sérieux mec? Les meufs elles se font payer pour prendre une faciale.
À le moment? Ouais, ça va? Bah ouais, carrément, je suis content de t'entendre. Bah ouais, tu me manques. Ouais, bah y'a Nikki qui est là tout le temps. Et même, y'a plein de potes qui passent, donc je me sens pas tout seul. Ouais. Non, c'est trop cool. Allô? Allô? Maman, tu m'entends? Allô?
Schubert, pour passer d'un plan à un autre, à un troisième plan dans ce dernier extrait de votre carte blanche ciné Iris Bray, on retourne au cinéma et d'un seul coup c'est le cocktail Molotov des deux sujets, à la fois celui qu'on traite et celui que vous avez beaucoup abordé dans votre ouvrage Sex and the Series. Ici on est dans un film qui part d'un fait divers. Vous vous souvenez du fait divers?
Alors, le... Non, je me souviens même pas.
Le fait divers, ce sont des lycéens qui, aux États-Unis, se retrouvent pendant plusieurs semaines et se livrent à des orgies aussi secrètes que vraiment dévergondées. Et leurs ébats et leurs joyeuses aventures sexuelles se terminent par une épidémie de syphilis. Voilà. Et donc, ça inspire la réalisatrice Eva Husson pour ce film qui s'appelle...
Gangbang. Oui, qui transpose ça en France. C'est ça qui m'a intéressée en fait dans ce film. C'est en fait j'avais envie d'avoir un extrait aussi qui parle un peu de la jeunesse et qui parle aussi d'autres drogues, des nouvelles drogues aussi qui arrivent. Et j'avais envie de parler aussi d'un film français. Et je trouve que enfin, c'est un film que j'ai découvert en fait au Festival du film indépendant de Bordeaux l'année dernière. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir tous ces jeunes gens de beaux, nus, se droguer et puis faire l'amour et de parler de ces drogues qui rendent heureux. Hein, la drogue de l'amour, la MD, de voir finalement l'extasie, puis ça, qu'est-ce que ça provoque chez nous et pourquoi en fait est-ce que c'est devenu une drogue qui finalement fait aussi partie de l'idée de faire la fête et de faire l'amour. C'est-à-dire comment est-ce que maintenant la sexualité peut être associée à des drogues non plus comme le Viagra, mais des drogues qui sont censées renforcer le sentiment amoureux. Donc je trouvais que c'était un film voilà, assez fascinant qui mettait ça en scène. Après, c'est vrai que la fin avec donc l'arrivée de la syphilis qui arrive aussi dans le film avait un petit côté, ils vont tous être punis.
Retour de bâton.
Voilà, même si je pense que c'était pas vraiment le message que voulait livrer le film. Mais c'est vraiment un questionnement, je pense, que j'ai par rapport à cette... une nouvelle génération qui a accès à des drogues nouvelles, qui se consomment de manière différente, qui ne coûtent pas le même prix. Et je pense que, en fait, chaque génération, finalement, a un peu sa drogue. Et qu'est-ce que ça veut dire sur cette génération-là? Comment ça va la définir? Et comment est-ce que cette génération-là, qui va bientôt faire des séries et faire des films, comment est-ce que ça sera inclus dedans? Voilà, c'était plus une question, en fait.
Une ouverture sur le futur. Ouais. Comment est-ce qu'elle est mise en scène, cette prise de drogue, justement, dans ce film?
C'est un film assez esthétique, qui est très beau. Il y a beaucoup de ralentis pendant ces orgies, beaucoup de très gros plans sur les peaux. Avec finalement, on a l'impression que tous ces corps vivent sous le soleil. Vous voyez les corps un peu déliés qu'on peut voir quand on a quand on a 20 ans, quand finalement la chair est ferme et puis pas du tout. C'était finalement un peu le contraire du film de Darren Aronofsky où les corps se tendent au contact de la drogue, où le corps finalement se cabre presque. Là, c'est les corps se cabrent, mais pour d'autres raisons, et dans quelque chose de beaucoup plus dilué. Enfin, je sais pas si puis il y a une lumière aussi très diffuse dans le film. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement doux en fait dans ces scènes d'orgie et dans cette prise de drogue. Qui, je trouve, était un peu le contrepoint de ce qu'on peut voir quand les gens prennent de l'héroïne, par exemple.
Qui est autrement mise en scène et bien souvent beaucoup plus diabolisée. Vous disiez que vous seriez curieuse de voir ce que va donner cette génération festive une fois qu'ils seront passés du côté de, pour certains en tout cas, de l'écriture de scénarios. Vous avez quelques pistes, vous vous sentez, je ne sais pas, vous avez par exemple connaissance de projets qui sont en développement et où justement la drogue se voit mise en scène autrement?
Alors, dans ce que j'ai pu voir récemment, parce que je sélectionne des courts-métrages aussi pour la semaine de la critique à Cannes, donc j'ai vu beaucoup de courts-métrages cette année, et c'était pas forcément un thème qui me paraissait
revenir,
mais je pense quand même qu'il y a un autre discours qui est en train de se dessiner autour de la drogue, c'est-à-dire que le côté extrêmement tabou, j'ai l'impression que la nouvelle génération peut peut-être plus en parler avec les parents. On l'a vu par exemple dans le film LOL en France, où il y a Sophie Marceau qui parle de cannabis avec sa fille. Je pense qu'on va arriver vers d'autres manières de parler de ça finalement, donc de l'imaginer. Et pour parler d'une autre série américaine que je trouve assez géniale, qui s'appelle Broad City, où c'est deux jeunes femmes dans la ville de New York, elles consomment par exemple du cannabis à longueur de journée, et c'est même pas une question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement, et elles, ce sont donc des choronneuses qui doivent avoir bientôt 30 ans, elles se posent pas la question de est-ce que je suis en train de représenter quelque chose d'interdit. Finalement, l'interdit n'est plus là. Donc je me demande où va se déplacer l'interdit.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Voilà une bonne question pour terminer la semaine sur les drogues. Il est 14h49 sur France Culture. On termine aussi cette série d'histoires racontées par le réalisateur Jean-Charles Hue. Et il revient lui aussi à sa jeunesse, à sa toute jeunesse, souvenir de service militaire.
C'était pas la dernière année, mais je crois que c'était l'avant-dernière année du service militaire en France. Pas de bol. J'avais pas envie de partir pour un an comme ça, pour du beurre. Je me pointe, malheureusement, aux trois jours, je fais l'erreur colossale de... J'essaie de me faire passer pour un peu bizarre. Je fais une erreur colossale, en fait, je parle. Voilà, si on parle, on n'est pas fou, quoi. Enfin bon. Et alors donc, en tout cas, c'est comme ça que ça avait été pris. Bref, je suis engagé, je passe les trois jours, malheureusement, je me retrouve au service militaire. Et peut-être parce que j'ai eu quelques petites anicroches avec la justice à une époque, je me retrouve à du côté de Vars, près de Grenoble, dans le dernier camp semi-disciplinaire de France. Je dis merde, pas de bol. Et c'était chaud, quoi. C'était vraiment du genre, bon voilà, quoi, un peu marche ou crève, quoi. C'est-à-dire que c'était très clair que le colonel avait dit, ici, il n'y a pas de réformé, quoi. Vous coupez les veines, faites ce que vous voulez, en a foutre, vous sortirez mort, mais vous ne sortirez pas d'ici réformé. Alors donc, j'ai commencé à entamer mentalement une espèce d'exercice pour essayer de me faire réformer. J'ai commencé à faire des désertions. Je me suis barré à Lyon, je m'en souviens, un truc bizarre. J'ai commencé à me faire des copains et des clodos, puis je dormais... avec des mecs comme ça sur des bancs. J'ai fini par être chopé et renvoyé là-bas. Je refais une deuxième désertion, mais là, un peu encore plus bizarre, parce que je la fais dans la caserne. Je pouvais plus sortir, donc je la fais dans la caserne, c'est-à-dire que je refuse d'aller en batterie, tout ça, comme on dit, ni même à la cantine, ni quoi que ce soit. Et je trouve une piole dans un des immeubles qui était vide. Et là, je m'installe là, quoi. Donc, du coup, j'ai fini par faire une grève de la faim sans le vouloir, parce que je pouvais pas sortir de cette piole, quoi. La seule chose que j'avais, c'était un peu de shit que m'avaient filé des potes. Et je suis resté quand même 15 jours dans cette piole, dans laquelle il y avait douche, lavabo, donc j'avais de l'eau pour boire, etc. Je me lavais pas d'ailleurs, parce que j'étais vraiment la tête partie ailleurs. Et je fumais à la fenêtre, c'était ma seule occupation, du shit. Alors évidemment, la grève de la faim plus le shit, au bout de 15 jours, j'ai commencé à certainement, sans que je m'en rende compte, parce que j'ai plus aucune notion du temps, à flotter. Alors, ils ont dû me voir de loin à la fenêtre, je sais pas. Mais ils m'ont trouvé au bout de 15 jours. Les mecs sont rentrés. Curieusement, ils m'ont parlé poliment. Ils ont dit, celui-là, il est vraiment peut-être marteau, quoi. Il me restait encore une barrette de shit et je voulais surtout pas que les mecs me la prennent, quoi. Enfin, j'avais aucune notion. Donc, j'ai pris la barrette et je l'ai avalée, quoi, sec, quoi. Je me la suis foutue dans la bouche, je l'ai mâchée, je l'ai avalée. Et puis, ils m'ont amené rapidement pour me réhabiliter un peu dans un endroit où ils donnaient des cours de réanimation. C'était très drôle. On était dans des petits bureaux comme on avait en primaire, quand moi j'étais gamin en tout cas, avec les encriers, mais qui n'étaient plus là depuis longtemps. Donc, j'avais le truc qui était posé sur mes jambes, qui était évidemment bien trop grande. Et puis, il y avait des mecs autour de moi. Et puis, un mec, un militaire, qui montrait qu'un mannequin, comment fallait faire pour réanimer un mec quand il tombait dans les pommes. Donc, il fallait faire des pressions sur le cœur. Et puis ensuite, il fallait faire un bouche à bouche et compagnie. Et je l'écoutais sans trop penser à tout ça, évidemment. Et puis, boum, grosse montée. Le shit m'est remonté, la barrette m'est remontée tout de suite. Et gros voile. Et là, je suis tombé. Et c'est après les mecs qui m'ont raconté qu'il y a eu une véritable réanimation en direct. Ils m'ont envoyé ensuite à l'infirmerie. À l'infirmerie, ils m'ont forcé à bouffer une banane. Comme j'avais pas mangé depuis 15 jours, j'ai cru que j'allais étouffer, quoi. Je suis resté sur le lit pendant 2 jours. Et puis, je me suis vite aperçu qu'une fois de plus, ils allaient me remettre en batterie, que j'allais pas réussir à me faire réformer. J'ai pris les gros moyens, mais parce que je pense que j'avais décollé, quoi. C'est-à-dire, j'avais plus de notion de quoi que ce soit. Et donc, j'ai voulu faire une fausse tentative de suicide, ce qui est une très mauvaise idée. J'avais 90 comprimés qu'un psy m'avait filé, que j'avais été voir avant l'armée pour me faire réformer. Et j'ai avalé les 90 comprimés. J'ai à nouveau ce fameux voile blanc, que, décidément, qui me poursuit un peu. Je rouvre les yeux à l'infirmerie, pas l'infirmerie, dans un SAMU militaire. J'entends les mecs qui disent, bon, bah, lui, il va aller en prison parce que on n'a pas le droit de se suicider ici. J'arrive à l'hôpital, je me souviens que j'essayais de choper des éléphants roses, vraiment, c'est des éléphants roses, hippopotames bleus, enfin vraiment, je pensais pas que ça pouvait exister, genre de truc à part dans les dessins animés. Et puis, là, à nouveau le voile, et je me réveille. Là, je me réveille. Disons que j'ouvre les yeux, je saurai quelques temps après que c'était 3 jours plus tard, 3 jours de coma. Mais j'ouvre les yeux et je tombe directement sur la vue sur la montagne enneigée de Grenoble, magnifique montagne, et je sens une grande fraîcheur sur tout le long de mon corps. Et là, sur le moment, je m'en souviendrai évidemment toute ma vie, je me suis dit, merde, putain, ça y est, ce coup-ci, j'y suis, quoi. Les montagnes, la fraîcheur, je me sens bien... Ça y est, je suis dead, et puis je vais pas tarder à voir Saint-Pierre qui débarque, quoi. C'était une évidence. Moi, j'étais au moins rassuré sur le fait que c'était pas douloureux et qu'il y avait quelque chose après la mort. J'ai tourné ma tête sur la gauche et puis j'ai vu une nana qui avait des tuyaux partout, là, dans le nez, un peu partout. Et j'ai baissé mon regard vers mon corps, qui était effectivement tout nu sur un lit, mais qui était pareil plombé de tout un tas de tuyaux. En fait, j'étais au l'étage des réanimations de suicidés de l'hôpital. De l'hôpital de Grenoble. Et je me souviens toujours d'avoir été presque rassuré en me disant, ouais, quand même, bon, ça va, il y a un truc derrière, et puis c'est pas si moche que ça, quoi.
Et on finit avec le docteur Robert, chanté par les Beatles. Merci beaucoup, Iris Bray, d'avoir été avec nous et d'avoir choisi ces extraits de films et de séries pour la carte blanche cinéma. On rappelle le titre de votre livre, Sex and the Series, paru chez Soap Edition. Et pour les passionnés de séries, on peut vous entendre de temps en temps aussi à La Dispute, dans l'émission d'Arnaud Laporte, l'émission critique. Et la prochaine édition consacrée aux séries, ce sera le 15 novembre prochain. Soyez à l'écoute. Et bien voilà, cette semaine des Nouvelles Vagues est terminée. On peut continuer d'échanger sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Vous pouvez réécouter et télécharger l'émission sur la page des Nouvelles Vagues franceculture.fr. Un très très grand merci à toute l'équipe, Romain de Bac de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon. Ils pensent et préparent cette émission avec moi et franchement, à ce que je sache, sans drogue. Merci beaucoup à Véronique Villa qui la réalise aux manettes aujourd'hui. C'était Jean-Frédéric. Dans un instant, on retrouve Poésie et ainsi de suite avec Manu Farid. Moi, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi.